Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on rencontre ce matin un ethnologue qui revient de Tanzanie, Jean-Luc Paul. Jean-Luc Paul, c'est une rencontre de hasard que la nôtre, c'est un ami commun qui nous a mis en contact, en ne nous disant pas grand-chose l'un de l'autre. Ce que je sais, c'est que vous êtes agronome, que vous avez également fait des études d'anthropologie, une thèse en anthropologie. Vous êtes un des rares non-africains à parler couramment le swahili. Et vous avez travaillé longtemps en Tanzanie, où vous vous êtes intéressé aux manières dont les populations locales utilisaient les ressources de manière traditionnelle. Donc peut-être que déjà vous pourriez nous camper un petit tableau, nous raconter les paysages, les gens.
Oui, je vais essayer de le faire. Donc je suis plutôt en ce moment anthropologue et j'étais agronome, pour remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Et c'est vrai que c'est en tant qu'agronome, dans les années 80, que j'ai commencé à travailler en Tanzanie, à l'université Sokoine University of Agriculture, au pied des monts Uluguru, les majestueux monts Uluguru. Et c'est à cette occasion que j'ai appris le swahili. C'est aussi là que j'ai été sensibilisé à l'anthropologie et qu'ensuite je suis retourné sur ce terrain pour faire ma thèse d'anthropologie. Mais ce dont on va parler aujourd'hui concerne un autre programme que j'ai rejoint en 2006. C'est un programme de recherche de l'IRD, d'une unité de recherche qui s'appelle Patrimoine Locaux. Et le programme que j'ai rejoint, où il y avait déjà deux chercheurs, Olivier Hammerling, un écologue, et une géographe, Stéphanie Duvail, qui travaillait, s'intéressait aux stratégies d'utilisation des ressources naturelles par les populations locales des basses vallées. Alors ce qu'on appelle les basses vallées, c'est quoi ? C'est dans le cours d'un fleuve, quand on commence à s'approcher de la mer, à ce moment-là, le régime fluvial va changer, devenir moins rapide, et puis surtout la vallée va s'élargir. Et quand il s'agit d'un fleuve qui n'est pas encore contrôlé par de nombreux barrages, cette vallée, qui peut faire plusieurs dizaines de kilomètres, et je suppose même encore plus en Asie par exemple, eh bien, elle va devenir une vallée inondable. C'est-à-dire que régulièrement, au moment de la crue, les eaux du fleuve vont pénétrer à l'intérieur de la plaine et voir certaines années couvrir totalement en surface cette plaine. Donc on s'intéresse à ce type de milieu. Le fleuve sur lequel on travaille en Tanzanie s'appelle le fleuve Rufiji. Ça s'écrit en français Rufiji, et ça se prononce là-bas Rufiji. Le fleuve Rufiji, c'est le cinquième fleuve d'Afrique. Il est très peu connu, et pourtant, il est à la cinquième place en termes de débit.
Mais c'est peut-être, il a peut-être la chance d'être très peu connu. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore mis sous le carcan des barrages.
Ça fait depuis la colonisation allemande, qui date, hein, puisque les Allemands ont quitté, à l'issue de la Première Guerre mondiale, cette colonie-là. Il y a des projets d'aménagement hydroélectrique et en ce moment, depuis longtemps d'ailleurs, il y a le même projet qui ressort un petit peu comme un serpent de mer. Il s'agit de mettre un barrage tout au début de cette vallée inondable dans un endroit qui s'appelle Stigler Gorge. Et c'est même intégré ça dans le plan de développement énergétique de l'Afrique du Sud parce qu'il y a une partie de l'électricité qui serait destinée à alimenter ce pays. Donc c'est une vieille histoire qui menace effectivement, comme je vais essayer de vous l'expliquer un peu plus tard, la survie même de ces populations. Alors, dans cette vallée inondable, depuis relativement longtemps, il y a des populations qui habitent, et qui habitent au sein même de la vallée. C'est-à-dire, il faut vous imaginer cette vallée inondable, et ensuite ce qu'on appelle les terrasses sur des sols ferralitiques, donc à 10-15 mètres d'altitude au-dessus de la vallée, on va retrouver un autre type de sol, des forêts, tandis que dans la vallée, on a d'autres types de végétation. Dans cette vallée-là, il y avait des hameaux habités par des populations qui cultivent grâce justement au régime d'inondation. Alors il y a une première saison de culture qui commence avec la courte saison des pluies. Là, on sème essentiellement du maïs avec d'autres cultures annexes, mais la culture vivrière, c'est du maïs. Et puis ensuite, un peu plus tard, avant même de récolter ce premier maïs, on va ensemencer des parcelles avec du riz. Et ce riz-là, il va commencer son cycle avec les pluies et il va le terminer grâce à l'inondation de la plaine par la crue du fleuve. Et ensuite, on a une troisième saison de culture qui est merveilleuse. Elle, c'est une saison de décrue, à ce qu'on appelle là-bas mlao. Et elle est merveilleuse parce que, en fait, sur les endroits qui ont été totalement inondés, il y a récession de l'eau. Et au fur et à mesure que l'eau se retire, on va semer du maïs. Et le système racinaire de ce maïs va suivre la nappe phréatique et il va se développer. Alors, il faut évidemment qu'il y ait un sol argileux suffisamment épais à cet endroit-là pour que la réserve en eau du sol soit suffisante. Mais souvent, ce sol argileux, il est recouvert par une petite couche de sable. Donc on se retrouve sur des champs, c'est assez impressionnant, qui sont des champs sableux, en pleine saison sèche, tout est grillé, cramé autour, et puis avec un maïs verdoyant, merveilleux, qui est en train de pousser grâce à la nappe. Donc ça s'appelle le mlao. L'autre avantage, c'est que comme c'est une surface qui a été inondée, en termes de productivité du travail, c'est ce qui est vraiment essentiel pour les agricultures manuelles, c'est la productivité du travail, mais c'est très très productif dans la mesure où on n'a pas à sarcler, on n'a pas à labourer, on arrive avec ce qu'on appelle un bâton semoir, on fait un trou dans le sol, on dépose les graines, et puis, grosso modo, on attend de récolter. Alors, quand je dis qu'on attend de récolter, il s'agit d'une caricature parce que là-bas, c'est un endroit, la pression démographique est faible. On est à proximité d'une grande réserve de chasse, qui s'appelle la réserve du Selous. Et donc, il y a de très nombreux animaux. Et si on ne surveille pas ces parcelles, le fait de ne pas avoir sarclé ne sert pas à grand-chose parce que bientôt, les cochons sauvages, les babouins, les impalas, les différentes gazelles, quelquefois les éléphants, pénètrent à l'intérieur de la parcelle et puis ils se servent, évidemment. On est en saison sèche, il n'y a plus grand-chose à manger d'autre que ce maïs merveilleux qui est en train de pousser.
Comment est-ce qu'on surveille les parcelles? On met des barbelés électrifiés autour?
Alors, les gens construisent des cases de champs qu'on appelle des dungu, au pluriel madungu. C'est sur pilotis, à peu près, on va dire 1,80 m de hauteur pour le plancher. Donc, ce sont des cases sur pilotis avec la terrasse qui est faite en roseau et puis c'est une couverture en feuilles de palme. Et donc, ils dorment la nuit, ils vivent pendant toute la période de surveillance au champ.
Toute la famille ?
Toute la famille, pas exactement. On va surtout trouver les femmes et les enfants non scolarisés à ce moment-là dans les parcelles. Les enfants scolarisés, on comprend qui sont à l'école, ils doivent rester au village. D'ailleurs, des fois, ça pose quelques problèmes parce qu'il faut trouver des personnes qui s'en occupent. Ceci dit, ils sont assez débrouillards. On trouve assez facilement des enfants de 10-11 ans qui sont seuls au village, qui se font la cuisine, etc., pouvoir aller à l'école tous les jours. Et puis, les hommes, eux, en général, ils sont à la pêche pendant les saisons de surveillance parce que, justement, plus on approche de la récolte, c'est ce qu'on appelle la soudure, hein. Plus les réserves familiales sont basses et plus on a besoin d'argent pour substituer à la nourriture auto-produite de la nourriture qu'on va acheter à la boutique du village. Donc il faut aller pêcher parce que là-bas, la seule activité régulière qui permette d'avoir de l'argent, c'est la pêche et la vente du poisson fumé à des commerçants qui emmène ça en ville. Donc il y a ces cases qu'on appelle les ndungu qui sont sur pilotis. Alors les pilotis, ils sont là parce qu'il y a des moments d'inondation où l'eau peut monter, mais ce n'est pas la raison essentielle. La raison essentielle, c'est pour se protéger des animaux, parce que c'est toujours désagréable de se faire réveiller par une hyène. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux, il y a des serpents, il y a toutes sortes de petits carnivores, les cochons sauvages qui passent la nuit, il y a aussi des panthères et des lions. Avant que j'arrive en 2002-2003, il y a quand même eu dans les 5 villages, le village dans lequel je travaillais moi et puis des villages voisins, il y a quand même une petite cinquantaine de personnes qui se sont fait dévorer par un lion. Bon, c'était un lion qui apparemment avait un gros, très gros abcès à la mâchoire, qui souffrait énormément, qui était incapable de chasser des proies difficiles. Il venait du Célous, vraisemblablement. Le problème de la proximité de cette réserve, c'est qu'effectivement, les animaux ne connaissent pas les limites du Célous. Donc, ils sortent régulièrement de la réserve et puis ils rentrent dans les zones habitées. Tandis que eux, les villageois, ne le font pas parce que quand ils rentrent dans la réserve, ils sont considérés comme braconniers et on n'hésite pas, y compris quelquefois, à leur tirer dessus. Donc, pour revenir à nos Madungu, voilà, c'est l'endroit où on vit une bonne partie de l'année finalement, puisque au moment où on va avoir des travaux importants comme le labour, le semis, on va rester sur place. Ça, c'est pour les autres saisons de culture. Hein. Pour le mlao, c'est-à-dire la culture de décru, elle est très productive en termes de travail, mais son problème, c'est qu'on est totalement dépendant des surfaces qui vont être inondées, et toutes les surfaces qui sont inondées ne sont pas cultivables. Il y a des surfaces qui sont trop sableuses où l'eau va drainer trop rapidement. Donc les gens, en fait, ils rentrent à l'intérieur d'une parcelle. En général, ce sont des parcelles qui sont couvertes de roseaux. Et ils coupent un roseau, et puis un roseau à peu près d'une soixantaine de centimètres, et ils vont le rentrer dans le sol à la manière d'une jauge pour voir si le niveau de l'essence. Et puis, tant qu'il y a de l'argile, ça rentre un peu comme dans du beurre. Puis là, on va pouvoir mesurer la profondeur de sol argileux. Si on a dans les 15 centimètres, c'est inutile de défricher et d'installer une parcelle de mlao. Si on a au moins 25-30 cm, on peut, 50 cm, c'est le paradis, on est sûr d'avoir une superbe récolte. Donc, c'est ces parcelles-là qui ne sont pas labourées. Par contre, les autres parcelles, elles, sont labourées, et puis ensuite semées, puis sarclées aussi. Et pour le riz, à partir du moment où c'est inondé, le sarclage, effectivement, disparaît. Voilà. Donc, ces Madungu, elles sont habitées une très grande partie de l'année, à toutes les périodes de pointe. Quand on se promène dans la zone cultivée, on va aller de 200, 300 mètres en 300 mètres, on va trouver des Madungu au milieu des parcelles. Alors ça aussi, c'est dû au fait qu'auparavant, les gens habitaient dans la plaine inondable. Et à la fin des années 60, il y a eu un mouvement de villagisation forcé, il faut bien le dire, qui a obligé les gens à sortir de la plaine inondable et à se regrouper en villages un peu plus importants, sur la terrasse, c'est-à-dire en dehors de la plaine. Et donc maintenant, les gens du village de Kipo, Kipo c'est le village où je me trouvais, sont obligés, quand ils vont cultiver leur parcelle, de monter dans une pirogue, traverser le fleuve, et puis de marcher jusqu'à leur parcelle. Auparavant, ils habitaient des hameaux qui étaient à proximité de leur parcelle.
Il y avait tout de même déjà ce système de double habitation, le hameau et les Madungu.
Oui, mais les Madungu étaient beaucoup plus rustiques, on n'était pas obligé d'y rester aussi longtemps. Au moment des surveillances, là, il fallait vraiment y rester. Par contre, au moment des pics de travail, de labour ou un sarclage important, etc., on n'était pas obligé de dormir sur la parcelle, puisque les parcelles se trouvaient en général à proximité des hameaux.
Et pourquoi est-ce qu'on les a contraints à s'installer dans des villages sur les terrasses ? Jean-Luc Paul, vous disiez dans les années 60, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
C'est la fin des années 60, c'est 67-68. En fait, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle la politique d'Ujamaa en Tanzanie et le programme de villagisation. Ça fait partie d'un grand projet de modernisation, avec des belles guillemets, de modernisation de l'agriculture tanzanienne. C'est un projet qui était dans les cartons avant l'indépendance, un rapport de la Banque mondiale qui a été publié juste après l'indépendance, donc 61. Et il s'agissait de moderniser l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire moderniser l'agriculture ? Ça veut dire faire rentrer l'agriculture dans le marché, et plus spécifiquement dans le marché international.
Plus clairement, ça veut dire récupérer ces terres qui ont l'air tout de même très fertiles pour y faire des cultures de rente ? Ou est-ce que je caricature là ?
C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, la population rurale tanzanienne constitue la majorité de la population. Mais à l'époque, c'était 90% de la population qui était dans l'agriculture. Et l'État tanzanien, à cette époque-là, vivait essentiellement soit des aides internationales, soit évidemment du prélèvement du surplus produit par les paysans au travers des taxes à l'exportation et puis des taxes aussi à l'importation, les paysans en tant que consommateurs. Donc il y avait un enjeu politique et économique, aussi de reproduction de la bureaucratie d'État, on va dire, qui exigeaient qu'on puisse contrôler cette agriculture et ces paysans. Et ils étaient difficilement contrôlables, dispersés en petits hameaux. On n'a pas les structures de village qu'on a en Afrique de l'Ouest, là-bas en Tanzanie. Donc pratiquement tout le pays était couvert de hameaux qui regroupaient quelques centaines de personnes. Donc l'idée, c'était de regrouper ces hameaux en villages plus importants, de les moderniser, c'est-à-dire de leur offrir l'eau courante, une école, un dispensaire, de les équiper aussi avec des tracteurs, et puis de transformer totalement l'agriculture tanzanienne et d'en faire une agriculture productive qui permette aussi à l'État de vivre, de se développer, etc. Mais derrière tout ça, évidemment, il y avait le rêve du développement, tel qu'il est critiqué par Ritz et Latouche, par exemple. Il y avait cette espèce d'idéologie du développement. Donc, on va revenir plus précisément au village de Kipo, par exemple. Kipo, c'est 3-4 hameaux qui ont été regroupés en un seul village. Au début, effectivement, on leur a offert l'eau courante, c'est-à-dire qu'ils ont été installés près d'un lac avec une pompe diesel et puis plusieurs fontaines dispersées dans le village. L'école qu'on leur a promis, ça a mis plusieurs années à se mettre en place. Au début, ils ont eu une seule année de primaire, il y a 7 années de primaire là-bas, à leurs propres frais. Ensuite, l'État a construit petit à petit des classes supplémentaires avec la participation des villageois. Mais encore aujourd'hui, cette promesse qui avait été faite à la fin des années 70, elle n'est pas tenue parce qu'on a 7 classes de primaire, d'accord ? Et moi, pendant les 4 années où j'étais régulièrement là-bas, au maximum, on avait 3 instituteurs. On n'arrive pas à avoir le nombre d'instituteurs correspondant. Et on a effectivement un niveau de réussite scolaire en primaire dans ces zones-là qui est lamentable par rapport à la moyenne nationale. Donc cette promesse à l'école n'a pas été tenue. Le dispensaire, il n'est toujours pas construit. Donc on est quand même 40 ans plus tard. Avec les plans d'ajustement structurel, dans les années 90, la pompe diesel, elle a disparu. Donc ils n'ont plus l'eau courante. Ils retournent au lac et à la rivière. Ce sont les femmes qui vont chercher l'eau. Et ça peut poser des problèmes parce qu'il y a aussi des crocodiles, il n'y a pas que les lions. Alors de temps en temps, il y a quelqu'un qui se fait attraper par un crocodile. En ce moment, ça va beaucoup mieux parce qu'il y a un braconnier qui a nettoyé le lac de tous ces gros crocodiles. Et il y a une piste sableuse qui passe au milieu du village, mais qui finalement bénéficie relativement peu aux villageois. Elle conduit vers le Selous et on y voit passer, surtout en saison sèche, des grosses 4x4 avec des touristes qui laissent quand même dans le village une trace, la poussière qui se repose sur les maisons une fois que la 4x4 est passée, et puis qui font des signes aux gens en passant, bonjour, bonjour. Une fois, j'étais en train de jouer aux cartes avec des amis, et puis comme ça, il y a une 4x4 qui passe, genre Toyota, et des gens à l'intérieur, clim allumé, etc. Et puis qui font bonjour, bonjour. Et puis le copain qui s'appelle Doula, il pose sa carte un peu énervé, il dit, ils nous prennent vraiment pour des cutéreux. En Swahili, cutéreux des Wachamba, les gens des champs. Et donc, voilà, cette villagisation, elle a eu lieu dans le Rufiji, 7 ans à peu près avant la villagisation générale de la Tanzanie. Ça a été une espèce de ballon d'essai. Ça s'est passé relativement bien dans la zone où je travaille. Un peu plus haut dans le Rufiji, il a fallu faire intervenir l'armée pour et même brûler quelquefois des cases pour pouvoir obliger les gens à quitter leur terre. Et à cette occasion, la réserve du Selous, qui est plus grande que la Suisse, a été encore agrandie un petit peu. Et au moment de cet agrandissement, les zones les plus poissonneuses de la vallée inondable du Rufiji, elles ont été annexées à la réserve. Ce qui fait que maintenant, on a des pêcheurs qui sont, pour des raisons que je vais expliquer tout de suite après, obligés d'aller pêcher dans le Selous. Ils deviennent des pêcheurs illégaux, alors que eux-mêmes, leur famille, vient de ces endroits-là.
Regardez,
va revenir sur la pêche, Jean-Luc Paul, mais tout de même, je reste avec une question. Depuis tout à l'heure, vous nous avez parlé de cette modernisation des années 60, qui a vu les populations gagner, entre guillemets, une école sans instituteur et un projet de dispensaire sans dispensaire. Mais est-ce que le but d'origine a été atteint? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont basculé dans une agriculture moderne, productive, qui rapporte à l'État?
Oui, c'est assez surprenant. En fait, de modernisation, et c'est là qu'on voit que le mythe du développement, pour certains, est réellement un mythe. Quand on observe les pratiques paysannes aujourd'hui, on peut dire que, à peu de choses près, elles sont les mêmes qu'il y a un siècle. C'est-à-dire que les gens continuent de labourer à la houe, ils continuent de sarcler avec leur houe, ils continuent d'aller au champ simplement avec leur coutelas et leur houe, ils continuent à choisir un morceau de bois et le tailler en pointe pour pouvoir semer à l'époque du mlao. Et ils n'utilisent pas d'engrais ni de produits de traitement, mais là, l'absence d'engrais s'explique par le fait que la fertilité est reproduite essentiellement par la crue, ce qui leur permet d'avoir accès d'ailleurs à certains marchés bio. Mais en termes de productivité du travail, rien n'a changé. Pendant 2 ans, ils ont eu accès, au début des années 70, à un tracteur. Et rapidement, ça a disparu. Le tracteur, c'est une demande de leur part. Surtout pour la courte saison des pluies. Comme vous le savez, sous les tropiques, la courte saison des pluies, c'est quelque chose de très aléatoire. On ne sait jamais combien de temps elle va durer, à quelle époque elle va vraiment démarrer. Donc il est très important d'être rapidement prêt à semer et à ressemer, si possible. Donc le fait d'avoir un tracteur, évidemment, permet de préparer les terres rapidement. Et ensuite, pour le semis, le sarclage, on se débrouille manuellement. Donc c'est cette adaptation à la grande variabilité de la petite saison des pluies et aussi au début de la saison, de la grande saison des pluies, qui expliquerait le besoin de tracteurs. Mais non, donc ça veut dire que en termes de productivité du travail, pratiquement rien n'a changé. Et je peux même illustrer ça par la comparaison entre les attentes de Nzeru, un villageois qui a dans les 80 ans, et puis celle de Chamté, par exemple, qui a, lui, bientôt 40 ans. Nzeru, quand il était jeune, donc bonne vingtaine d'années, il a fait une récolte de riz exceptionnelle. Et avec cette récolte de riz exceptionnelle, donc il en a gardé pour l'alimentation de sa famille, il en a vendu une partie et il s'est acheté une bicyclette. Eh bien, Chamté, il y a 3 ans, il a fait une récolte exceptionnelle. Avec cette récolte exceptionnelle, il s'est acheté une bicyclette. Voilà ce qui a changé en 40 ans, c'est-à-dire, grosso modo, pour eux, rien du tout. Sauf que la bicyclette était britannique dans les années 60 et que maintenant elle est chinoise. C'est la différence essentielle en termes de développement. Mais en termes de productivité du travail, rien n'a changé. À la limite, dans la pêche, il y a une évolution qui est un petit peu plus prononcée parce qu'on est passé à la pêche au filet. Avant, la pêche se faisait à pied, entre guillemets. C'est-à-dire que tous les engins de pêche nécessitaient de pouvoir se déplacer dans l'eau à pied. C'était des pêches à la nasse, avec des palissades, tout ça fabriqué localement. Timidement, à la fin des années 50, début des années 60, il commence à y avoir introduction du filet et donc possibilité de pêcher en eau profonde, entre guillemets. Et donc à être peut-être moins dépendant des saisons. Et aujourd'hui, on pêche essentiellement avec des filets en nylon, qui sont des filets importés de Chine ou de Corée, qu'on achète dans la petite boutique du village. Et là, ce sont des pêches embarquées, on est sur des pirogues monoxyles, et on jette le filet, c'est une senne en quelque sorte, hein. Soit une senne simple, c'est-à-dire qu'il y a une pirogue qui entoure le banc de poisson, en déroulant son filet, et ensuite on tire le filet, soit ce que j'appelle une senne double, mais sans savoir si c'est le vrai terme en français, où on a 2 pirogues cette fois-ci, qui vont dérouler le filet, qui vont ensuite battre l'eau pour effrayer le poisson et le faire fuir vers l'intérieur du filet, et qui ensuite vont relever le filet. Là, donc techniquement, il y a eu au moins cette introduction du filet qui a changé pas mal de choses en termes de productivité de la pêche. Et le problème, c'est que la pêche, c'est l'activité qui permet d'obtenir du cash. On est dans une agriculture paysanne typique, c'est-à-dire qu'on essaye de fournir le maximum de son autoconsommation parce qu'on est dans des conditions d'échange qui sont défavorables. Il vaut mieux produire sa nourriture que produire autre chose et acheter la nourriture à cause de l'équilibre des prix. Mais on a tout de même besoin d'argent. On a besoin d'argent pour acheter des vêtements, pour scolariser les enfants. Donc on a besoin d'argent. Pour avoir du monétaire, la seule activité qu'on peut généraliser à l'ensemble des villageois, c'est la pêche. C'est une activité masculine, c'est les hommes qui vont pêcher. Mais cette activité, les revenus qu'on obtient sont faibles. Avec la pêche la plus répandue, c'est la pêche au filet fixe. On va dans le lac qui est près du village, il s'appelle le lac Zumbi, on pose un filet le soir, on le relève éventuellement vers minuit, 1h du matin, puis le matin à 6h du matin. Mais une activité comme celle-là, sur des suivis que nous avons faits quotidiennement pendant 3 ans sur un échantillon de pêcheurs, ça permet d'obtenir en moyenne 80 centimes d'euros par jour. Et les budgets familiaux, en moyenne, c'est des familles de 5-6 personnes, en moyenne, il faut grosso modo 300 euros pour faire tourner une famille par an. Donc avec 300 euros pour une famille par an, on arrive à survivre. Hein. On va pas dire, la vie est quand même difficile, on va pas dire à vivre.
Mais donc on n'est pas loin avec 80 centimes d'euros par jour.
Alors avec 80 centimes d'euros par jour, on n'est pas loin. On complète avec la vente un petit peu de noix de cajou. On a quelques pieds d'anacardier, un peu de sésame. Si l'année a été bonne, du riz, on arrive à se débrouiller. Si à l'issue des 7 années de primaire, on a un élève qui arrive à passer en secondaire, tout de suite, pour pouvoir faire étudier ce gamin, cette gamine, le budget familial va être doublé. C'est-à-dire qu'il faut grosso modo 350 euros pour la première année d'études secondaires. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de collège-lycée à proximité, donc il va falloir l'envoyer dans un autre village, un petit bourg, trouver une chambre pour pouvoir le faire dormir. Il faut acheter un matelas, il faut 2 uniformes, il faut des chaussures qui font partie de l'uniforme, des chaussures de sport, c'est obligatoire, des cahiers, etc. Avant, l'éducation était totalement gratuite, on payait tout ça. La plupart des députés qui sont assis au Parlement tanzanien, ils ont étudié gratuitement. Mais toujours à la suite des plans d'ajustement structurel, tout ça c'est devenu payant. Alors 350 euros, ça nous semble ridicule, sauf que c'est plus que le revenu annuel d'un pêcheur qui pêcherait au filet fixe. Alors il y a d'autres techniques de pêche. Les techniques de pêche qu'on appelle des pêches actives, c'est celles que je décrivais tout à l'heure, donc la senne embarquée. Et là, on peut monter à des revenus quotidiens qui sont un peu plus élevés, du genre 2 euros, voire 2,5 euros par jour de pêche. Seulement le problème, c'est que dès qu'on pêche comme ça, on est épuisé en rentrant et on est incapable, parallèlement, d'assurer les travaux agricoles. Ça veut dire qu'on va avoir des coûts supplémentaires d'alimentation si on ne peut pas surveiller ses parcelles, si on ne peut pas labourer à temps, etc. En fait, nous, ce qu'on a montré dans notre étude, c'est que une fois qu'on a un élève qui a réussi le passage en secondaire, le seul moyen d'obtenir suffisamment d'argent pour pouvoir assurer le budget familial normal plus payer ces études-là, c'est d'aller pêcher dans le parc du Sélous. Parce que là-bas, on a des lacs très poissonneux qui permettent d'obtenir quelque chose comme 4 euros par jour de pêche. Seulement pour rentrer à l'intérieur du parc du Sélous, on va être obligé de rentrer de nuit pour pas être surpris par les gardes. On va être obligé aussi de pêcher de nuit pour pas être surpris par les gardes. Et quand on pêche de nuit, dans une réserve, dans un lac poissonneux, on a aussi quoi ? Des petits crocodiles, des gros hippopotames. Donc il arrive régulièrement qu'une pirogue se fasse renverser par un hippopotame. Il arrive aussi quelquefois que les pêcheurs soient surpris par les gardes. Et à ce moment-là, ils sont molestés, puis conduits devant le tribunal. Et quelquefois, c'est rare, mais ça arrive, quelquefois on leur tire aussi dessus. Alors, il peut y avoir discussion, explication, c'est-à-dire qu'il y a des braconniers, des vrais braconniers, qui sont, eux, très dangereux, et qui, y compris, tirent sur les gardes. Mais tout de même, on a des témoignages de pêcheurs qui s'enfuient en courant, qui ont laissé leurs poissons sécher, leurs pirogues, etc., et qui se font tirer dans le dos. Donc, il y a tout de même des méthodes très violentes, qui sont issues d'ailleurs de l'époque coloniale, de traitement des populations, qui sont inadmissibles. Toujours est-il que, économiquement, nous, on a montré que si on veut faire étudier son enfant en secondaire, on n'a pas d'autre solution que d'aller pêcher dans le Sélous. Donc on se rend dans le Sélous la nuit, on fait des expéditions, on essaye d'en faire une quinzaine par an. On part du village et on va pêcher pendant 8 jours à peu près. On va s'installer dans un lac de la réserve du Selous. On va se cacher dans des fourrés, on va y installer son camp. Et quand on va immerger les pirogues pendant la journée, sous l'eau, quand vient le soir, on sort les pirogues, et puis on va pêcher à la scène simple, deux pêcheurs, un qui déroule le filet, l'autre qui pagaye, etc. Ensuite, on tire le filet, etc. Et à la fin de la nuit, on va revenir au camp. Avant le lever du jour, on va fumer le poisson. On ne peut pas fumer le poisson pendant la journée, puisque la colonne de fumée serait repérée, et soit par les gardes, y compris il y a des patrouilles en avion qui surveillent tout ça. Donc on va fumer le poisson tôt au petit matin et tard le soir avant d'aller pêcher. Donc le poisson va être fumé imparfaitement, mais suffisamment pour être conservé. Et au bout de 7 jours, grosso modo, on a rempli sa pirogue, donc on n'a plus la capacité de transporter plus de poissons, et on va rentrer au village. Une fois qu'on rentre au village, là, on vend le poisson à un armateur. C'est-à-dire que le pêcheur qui part 7 jours au Selous, il va s'associer, alors j'appelle ça un armateur, à un marchand de poissons qui va lui avancer l'argent nécessaire pour le filet, pour la nourriture des 7 jours quand il sera là-bas, et aussi pour entretenir sa famille pendant qu'il sera absent.
Qu'est-ce qui fait, Jean-Luc Paul, que les populations dans le Fidji sont prêtes à tant de sacrifices, sacrifices d'énergie, de temps, sacrifices même de leur vie, pour envoyer un enfant dans le secondaire? Qu'est-ce qui fait que c'est si important d'envoyer cet enfant dans le secondaire faire des études?
L'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que ces enfants-là pourront obtenir un travail salarié, rémunérés régulièrement, relativement bien rémunérés, et qu'on pourra compter ensuite sur ces enfants-là quand on va vieillir comme soutien de famille.
Donc ça, c'est quelque chose qui a changé, puisque les stratégies paysannes, en général, c'est d'avoir beaucoup d'enfants pour avoir beaucoup de bras qui servent effectivement de soutien de famille lorsqu'on est âgé.
Effectivement, il ne s'agit pas du tout d'avoir de la force de travail. Mais on est dans le même esprit finalement, c'est effectivement la sécurité sociale entre guillemets, ce sont les enfants. Et là, comme on considère, y compris au milieu des paysans, de manière très péjorative, les activités paysannes, de pêche, etc., et qu'on considère qu'on valorise beaucoup les éventuelles carrières en ville, même si ce sont des carrières minables, mais qui permettent d'avoir un revenu régulier, plus ou moins sécurisé, eh bien, on parie plutôt sur l'éducation. Donc, la plupart des gens comptent vraiment sur le fait que, ayant l'équivalent de notre BEPC ou bien du baccalauréat, ces enfants-là trouveront un travail plus facilement et pourront ensuite supporter les parents vieillissants. Et on voit qu'il y a tout de même quelque chose de vrai là-dedans, puisque parmi les anciens que j'ai rencontrés au village, ceux des anciens qui ont des enfants en ville qui ont réussi à trouver un travail intéressant vivent de manière plus confortable que leurs voisins. Donc il y a une réalité derrière tout ça. Sauf que la plupart des jeunes étant donné la situation, ne trouvent pas de travail très intéressant. Ils vivotent en ville bien longtemps et quelquefois, ils ont plus besoin de l'appui des villageois que l'inverse n'est vrai. Alors, il y a des échanges, hein, entre cette zone. Ce qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à présent, c'est que cette zone du Rufiji, c'est une forte zone d'émigration. C'est-à-dire que entre le début de la villagisation et maintenant, entre la fin des années 60 et maintenant, on a eu une très faible augmentation démographique dans le village, alors que c'est une véritable explosion dans le reste du pays. Mais ce n'est pas parce que les enfants ne font pas beaucoup d'enfants, au contraire, c'est une des zones où la fécondité est la plus élevée, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent en ville. Et donc il y a des relations constantes entre le village et la ville, et c'est des échanges. Alors on voit par exemple beaucoup de jeunes enfants en préscolarisés qui rejoignent leurs grands-parents. On voit aussi les citadins débarquer au moment de la récolte de riz, quand les récoltes sont abondantes, pour aider à la récolte et aussi surtout pour revenir avec des sacs de riz chez eux. Mais on voit aussi les citadins, pour leur part, contribuer en termes monétaires au budget familial quand il y a des coups durs. On voit aussi les villageois aller régulièrement se rendre en ville, rester 2 semaines, quelquefois 1 mois, quand c'est possible, au milieu de leur famille. Donc il y a un échange comme ça. Et ce qui est aussi frappant, ça j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, c'est que beaucoup de gens qui sont dans la quarantaine, je me suis aperçu qu'ils sont là parce qu'ils sont revenus de ville alors que leurs parents vieillissaient et qu'il fallait quelqu'un pour s'en occuper. Mais parmi tous ces villageois qui sont là, démographiquement, il y a combien d'adultes dans la force de l'âge sont ici par choix délibéré et combien sont revenus obligés pour jouer le rôle de soutien de famille. Donc c'est aussi un reflet de la situation économique des villageois qui est quand même, il faut bien le dire, misérable.
Paul, on a presque l'impression que vous nous avez parlé du paradis jusqu'à présent. Vous avez décrit un lieu qui reste encore étonnamment équilibré au regard de ce qu'on connaît, de ce qu'on entend régulièrement partout sur cette marche forcée, terrible de la mondialisation qui déforeste à tour de bras, qui prend les terres, qui détruit les systèmes agricoles, sociaux, économique traditionnelle pour imposer autre chose. Vous nous avez parlé d'une réserve fourmillante d'animaux, vous nous avez parlé d'une terre fertile, vous nous avez parlé de villages où on arrive à préserver une sorte d'équilibre entre l'agriculture, le fait d'envoyer les enfants à l'école, même une relative harmonie entre une circulation entre la ville et les zones rurales. Comme si... On sent bien, évidemment, que ça n'est pas un lieu hors du monde, mais un lieu peut-être à l'écart du monde, comme si c'était juste la fin des vagues qui arrivaient jusque-là et qui touchaient, avec des risques, bien sûr, avec du danger, mais que pour l'instant, c'était encore intact. Mais peut-être que c'est une vision trop rêveuse que je vous donne là.
Oui, quelque part, j'ai dû être emporté par un certain lyrisme. Déjà, dans la description paradisiaque, n'oublions pas la pêche dans le Selous, c'est le fait que les gens risquent leur vie pour pouvoir faire étudier leurs enfants. Et puis, le fait que, quand même matériellement, les gens aspireraient à un petit peu plus de confort. Il y a des moments où, quelquefois, on a faim, où on fait sauter un repas, si jamais la saison culturelle a été mauvaise, ou bien on passe une semaine à manger essentiellement des mangues. En fait, l'histoire de cette zone est un petit peu surprenante, parce que dans un premier temps, ce fleuve Rufiji a été un axe de circulation qui a permis l'installation de cultures de coton. Et donc on a eu, à l'époque allemande, déjà la culture de coton, culture forcée, avec même installation de colons, etc., qui s'est mise en place dans cette même vallée inondée. Et ensuite, cette zone cotonnière est tombée un petit peu en déshérence. Le fleuve aussi, lui, son régime a évolué. Là, il n'est plus navigable.
Avant même. Pour quelles raisons ? Pour des raisons naturelles ou...
Oui, pour des raisons alors naturelles, vraisemblablement liées à la déforestation très très en amont. Donc ce qui est important à dire, c'est qu'il y a eu un long moment après, cette zone est devenue enclavée, avec une économie beaucoup plus tournée vers l'autoconsommation, etc. Mais depuis le début des années 2000, il y a une route qui a été construite vers le sud et qui a rendu cette zone beaucoup plus accessible. Donc accessible à quoi ? Au développement. Et ce développement, il s'est manifesté dans un premier temps par une déforestation importante. On a là-bas ce qu'on appelle une forêt claire, avec des espèces qui sont relativement recherchées. Et là, il y a des entrepreneurs chinois, ça aurait pu être des Français ou des Américains, qui sont passés par là, avec l'appui de certains membres des administrations locales ou nationales, et qui ont coupé toutes les essences nobles. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, un pêcheur qui voudrait creuser une pirogue dans un bois noble qui puisse lui durer une vingtaine d'années ne peut plus. Il creuse une pirogue qui va lui durer 2 ou 3 ans parce qu'on ne trouve plus de bois nécessaire à la réalisation des forêts. Donc, premier mouvement de cette modernisation, du désenclavement de la zone, ça a été le pillage des ressources forestières. Deuxième mouvement très à la mode en ce moment, c'est que, évidemment, comme c'est une zone qui est plus accessible, comme c'est une zone qui est relativement fertile, tous les projets d'agrofuel qui fleurissent dans le monde entier, eh bien, ils apparaissent aussi ici.
Donc là, agrofuel, c'est agrocarburant.
Donc, on a effectivement des projets, notamment conduits par une société SECAB, qui est une société suédoise, et qui concerne des dizaines de milliers d'hectares de la plaine inondable. Le pompage de l'eau pour faire de la canne à sucre agrocarburant et du pompage de l'eau aussi des lacs avec des études d'impact tout à fait bidon, on va dire, et aussi cette espèce de mythe qui était déjà utilisé à l'époque de la colonisation de terra nullius, c'est-à-dire ces paysans qui sont là, finalement c'est comme s'ils n'étaient pas là et donc la terre est vierge, quoi. Ça risque de poser des problèmes énormes si ça se met réellement en place. Pour l'instant, ça n'est pas le cas.
Est-ce qu'il y a des formes d'inquiétude, de résistance, ou pas du tout ?
À l'heure actuelle, on a quelques ONG tanzaniennes qui sont très impliquées dans ce type de combat. Il y a Haki Ardhi, ça c'est le droit à la terre, et il y a aussi la Lawyer Environmental Action Team. C'est 2 ONG qui sont très actives dans ce domaine-là et donc qui aident les villages pour pouvoir défendre leurs droits et qui les informent aussi sur leurs droits. Mais les villages eux-mêmes, quelquefois, ont des positions ambiguës. Ils sont dans un tel besoin monétaire qu'ils se font manipuler très facilement. En plus, ils n'ont pas les expertises nécessaires pour faire face au discours des technocrates qui viennent dans les villages, leur démontrer qu'ils ont tout intérêt à accepter ces projets d'agrocarburants. Donc, on a des résistances, des positions ambiguës, et pour l'instant, en fait, la situation n'est pas claire du tout. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. On peut espérer que ce sera la conjonction, en fait, de résistances à la fois paysannes, des ONG et de groupes situés dans les pays d'origine de ces firmes qui essayent de s'approprier la terre, les terres paysannes. C'est à partir de la conjonction de ces efforts-là qu'on pourrait arriver à barrer la route à des projets qui, de toute façon, porteront gravement atteinte aux écosystèmes et aux agrosystèmes aussi.
on passe à une deuxième partie de l'interview qui est sur les semences.
En fait, en ce qui concerne le riz, il y a deux milieux cultivés. Il y a la plaine inondable où là, on va semer du riz et le riz se développe en pluvial. Et à partir d'un moment qu'on ne contrôle pas, il va y avoir de l'eau qui va rentrer et qui va donc inonder le riz. Alors le problème, c'est si l'eau rentre trop vite, le riz va être noyé. S'il ne rentre pas du tout, le riz va sécher sur pied, etc. Et puis, il y a un deuxième milieu, ce qu'on appelle les bas-fonds. Mais en fait, ce sont des petites cuvettes, des dépressions. Alors, des cuvettes, il doit y avoir comme différence d'altitude 1,50 m. Hein. C'est rien du tout. Donc, sur la terrasse sphéralitique, sur des sols très drainants, on a de très larges cuvettes qui peuvent faire jusqu'à 1 km de diamètre. Et là, on a une accumulation d'argile à ces endroits-là. Et on a de l'eau de ruissellement qui vient s'accumuler. Ces endroits-là, qu'on appelle Ndjacha dans le langage local, elles n'étaient pas cultivées auparavant par les gens. À l'époque de la villagisation, quand on les a mis sur les terrasses et qu'ils se sont retrouvés à faire essentiellement de l'agriculture pluviale, parce qu'au départ, ils avaient même peur de revenir dans les plaines inondables pour cultiver leurs parcelles. Ils avaient l'impression qu'ils allaient être chassés par le gouvernement. Donc, ils ont cultivé dans les Ndjacha. Et d'ailleurs, c'est là où les tracteurs leur ont été prêtés pendant 1 ou 2 ans. Et donc là, ils installent du riz, cette fois-ci inondé par le ruissellement. Donc ils ont vraiment différentes variétés de riz, avec des cycles plus ou moins longs, et des adaptations à ces deux milieux qui sont différents. Ils ont eu cette capacité très rapidement à s'adapter à la culture, mais il faudrait voir on a répertorié les différentes variétés avec leurs noms, donc ça c'est disponible. Je ne suis pas sûr par contre qu'on ait la description agronomique correspondante.
Mais en tout cas ce sont des variétés locales.
Ce sont des variétés locales, des variétés qui ont circulé. Pour le maïs aussi c'est des variétés locales, autant que le maïs puisse être une variété locale africaine, elle est devenue quand même. Hein. Ouais. Qui ont été pollués par les importations d'aide alimentaire à certaines périodes de maïs américain. À côté de ça, on conserve les semences d'une année sur l'autre en ce qui concerne le riz dans des containers qu'on appelle kienge, mais qui ne sont pas spécifiques aux semences. C'est-à-dire qu'on met tout le riz là. Alors, c'est fait en roseau tressé sur lequel on va ensuite mettre de la terre, ok, en haut et en bas, et qu'on va ensuite sceller à nouveau avec une natte tressée et qu'on va sceller aussi avec de la terre. Ce qui est réservé spécifiquement aux semences, en fait, on les met dans des pots en terre qu'on va recouvrir ensuite par un couvercle.
Qu'est-ce qui garde ces pots ? Les femmes, les hommes ?
Normalement, les femmes et les hommes. On est dans un endroit très particulier où chacun, l'époux comme l'épouse, a son grenier à lui. Et la parcelle de l'épouse est engrangée dans son grenier et la parcelle de l'époux est engrangée dans son grenier à lui. Donc c'est séparé. Et quand on mange, on va manger une semaine par exemple en tapant dans les réserves de l'épouse et puis une autre fois dans celle de l'époux. S'il y a deux épouses, ça va tourner comme ça. Quoi. Alors, c'est assez surprenant parce que chacun a vraiment son grenier. Par contre, on va consommer en commun.
Et on cultive en commun ?
Alors, les parcelles sont individualisées, c'est-à-dire que, imaginons qu'on ait un époux avec deux épouses, chacun va avoir sa parcelle. On va s'entraider au moment des pics de travail, c'est-à-dire essentiellement s'il y a des friches, labour, on va aller dans la parcelle de l'un puis de l'autre, etc. Puis après, quand il s'agira surtout de la surveillance et du sarclage, c'est chacun qui va s'occuper de sa parcelle. Au moment de la récolte, on pourra s'entraider à nouveau, mais on va aller stocker chacun dans son propre grenier. Il s'agit peut-être d'un reste de matrilinéarité. Apparemment, ces populations qui sont maintenant musulmanes et patrilinéaires sont peut-être issues de populations matrilinéaires.
C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et le nom exact de notre invité, Jean-Luc Paul. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Genevin, Anne Gouzon, réalisation Christine Digère. Bonne semaine à tous. Yo.